I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello à tous, un petit mot avant de lancer cet épisode un petit peu spécial dont je vous donne les détails dans un instant, mais un petit mot pour vous dire que je ne sais pas si vous l'avez senti, mais je me sentais un petit peu bizarre en vous parlant du Patreon et en vous demandant des sous dans cette situation qui est tellement compliquée pour tout le monde et différente et... Je sais pas, ça me paraissait un petit peu trivial. Et en tout cas, l'ami Fabrice Croiseau, podcasteur de son état, a senti cet inconfort et m'a suggéré quelque chose de vraiment intéressant, qui est l'idée de faire en sorte que les gens qui vont soutenir les émissions maintenant, tout l'excédent par rapport au mois précédent, je pourrais tout simplement le donner. En faire une donation à une association ou un institut. Moi, je pense à l'Institut Pasteur. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à venir me les suggérer sur, dans les notes de l'émission ou sur Twitter, etc. Mais je me dis, je peux donner donc cet excédent jusqu'à la fin du confinement. Tout cet excédent, l'excédent, je veux dire, les gens qui se mettent à soutenir les émissions maintenant, jusqu'à la fin du confinement, je ferai don de cette somme à sans doute l'Institut Pasteur, mais on verra. C'est pas une... Et donc, j'arrêterai quand le confinement s'arrêtera. J'imagine, ça devrait durer, je sais pas, moi, j'imagine au moins jusqu'à fin avril, peut-être fin mai. Mais donc, tout l'argent des gens qui se mettent à soutenir maintenant ira jusqu'à la fin de ce moment, de ce confinement, à une association caritative. Et puis après, j'espère que vous continuerez à apprécier l'émission et à rester patriote et que la crise passée, continuera cette collaboration. Et bien sûr, vous aurez droit à tous les bonus. D'ailleurs, il y a normalement, si tout va bien, une newsletter qui va arriver. Donc, il y a plein de choses sympas dans les bonus auxquels vous aurez droit. Mais donc, ces sommes-là... Pendant cette période, je me dis, ça fait bizarre de vous demander de l'argent et de le prendre pour le fonctionnement de la société. Donc, alors évidemment, c'est pas un appel c'est pas un appel aux dons. Hein. Je suis pas en train de faire ça, c'est pas du tout l'idée. Je vais pas en parler plus que ça. Mais je suis pas en train de vous dire donnez-moi plus parce que je vais donner l'équivalent au. Je mettrai d'ailleurs un petit peu plus de mon côté parce que je vais donner ça à une œuvre caritative. C'est pas du tout l'idée. C'est juste que c'est bizarre de vous demander de l'argent et donc c'est un bon moyen de faire quelque chose de cool dans cette situation et de bénéficier à tout le monde autant que possible. Donc juste pour vous dire que si vous choisissez de devenir patriote en ce moment, jusqu'à la fin du confinement, votre argent n'ira pas dans la société, il ira dans la recherche, soit quelque chose du genre. Donc j'espère que c'est une bonne solution. Moi, ça me paraît quand même une chose pas trop mal à mettre en place. J'espère que ça vous plaira. Et du coup, évidemment, si vous souhaitez devenir patriote, n'hésitez pas, vous aurez, comme je le disais, accès à tous les bonus. Et puis, dans tous les cas, soyez forts. Et j'espère que cette épreuve, nous la traverserons tous ensemble. Et puis, j'espère que ces épisodes que je fais vous aideront à passer de bons moments. Et bon, celui-ci, c'est un épisode qui parle vraiment de ça spécifiquement, mais on ne peut pas y échapper. Mais que ça vous permet de vous changer un petit peu les idées ou de réfléchir, d'approfondir vos réflexions et que ça vous apporte quelque chose. Donc, toujours mon but est toujours le même. Je vais lancer tout de suite donc cet épisode un petit peu particulier. Allez. Bonjour à tous, chers auditeurs du Rendez-vous Tech, un épisode spécial bis sur un sujet qui m'a paru important à traiter. Oui, je suis Patrick Béja, bonjour, c'est moi. C'est un épisode donc bis qui fait suite à l'épisode de la semaine pour vous parler du virus et de la privation de liberté. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'épisode bis? C'est un épisode donc dont je me suis dit qu'il serait intéressant de le rajouter, qui fait pas partie des épisodes payants du Patreon. Donc les patriotes l'ont eu avec un édito en plus. Donc mais cet épisode ne fait pas partie des épisodes payants, bien sûr. C'est un truc à part. Et donc comme je le disais, c'est un épisode que je voulais faire pour parler de la question de privation de liberté. Le Rendez-vous Tech, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission, un podcast où on commente l'actu tech toutes les semaines. Et dans le dernier épisode, donc le 342, on a parlé assez longuement, en fin d'émission, d'un sujet à débat, qui était la question de savoir s'il était une bonne idée ou pas de ce que faisait le gouvernement taïwanais, c'est-à-dire de mettre une sorte de quarantaine virtuelle pour les gens qui étaient contaminés. Ils utilisaient le téléphone mobile pour savoir, avec les données de localisation, si les personnes sortaient de chez elles ou pas. Et ils téléphonaient deux fois par jour, à des moments aléatoires, à la personne en question pour vérifier qu'elle restait bien chez elle. Si l'une de ces deux vérifications ne donnait pas de résultats satisfaisants, et ben ils envoyaient les forces de l'ordre pour vérifier où était la personne. Et je précise deux choses, on parlait bien de ce qui se passait à Taïwan et de personnes en quarantaine. On ne parle pas à ce stade de personnes qui sont simplement en confinement. Donc ce sont des personnes qui ont le virus. Et cette discussion a donné lieu à de nombreuses discussions sur la question de la privation de liberté. Mes co-animateurs Gaël et Mathieu étaient plutôt de l'avis que si la quarantaine pouvait être nécessaire, la privation de liberté était préoccupante parce qu'on pouvait se demander ce qui allait se produire ensuite et que donc peut-être qu'il était nécessaire de ne pas mettre en place cette quarantaine virtuelle pour éviter que ça donne des idées au gouvernement ensuite. Et je comprends l'argument, mais ça a lancé tout un tas de commentaires qui, à mon avis, confondent deux choses. N'appréhende pas, selon moi, hein, bien sûr, on peut avoir des avis différents, mais selon moi, n'appréhende pas le problème de manière vraiment raisonnable et de manière cohérente. Pourquoi ? Je vais expliquer, et c'est pour ça que je voulais faire cet épisode. Pourquoi ? La question de la privation de liberté est évidemment importante, mais elle n'est pas absolue. La privation de liberté est une chose absolument commune dans nos sociétés. La question n'est pas de savoir si on va priver quelqu'un de liberté. La question est de savoir est-ce que la privation de liberté est compensée par un bénéfice pour la société suffisant pour implémenter cette privation de liberté. Ça veut dire que la liberté n'est pas 100% absolue dans tous les cas. La liberté prime si il n'y a pas un bénéfice suffisant pour la société pour la réduire, pour la supprimer ou pour la réduire. Et je vais donner des exemples concrets, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais la privation de liberté, elle est partout. La privation de liberté, juste petit préambule à cette partie, la raison pour laquelle je crois qu'on a une vision biaisée, déformée de la privation de liberté, c'est qu'on a tellement de l'habitude d'en parler et tellement de confort qu'on ne se rend pas compte du fait que la privation de liberté est quelque chose de commun. On n'en parle que dans le contexte, ces 15 dernières années, que dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, généralement, et des services de surveillance de l'État. C'est-à-dire qu'on a des exemples où la privation de liberté prend la forme de surveillance, et de surveillance qui est souvent soit modérément efficace, parce qu'on emmagasine trop de données, soit tellement vaste qu'elle concerne tous les gens qu'elle concerne plus de personnes que ce qui serait nécessaire pour lutter contre le terrorisme. Le terrorisme est un... Je sais que c'est difficile d'entendre ça, mais le terrorisme est un épiphénomène dans notre société. Il, évidemment, cause des morts tragiques et choquantes. C'est d'ailleurs le principe du terrorisme. Le terrorisme, c'est de répandre non pas la mort, mais de répandre la terreur. Et l'arme principale du terrorisme, c'est la peur. Donc, cette peur pousse les sociétés à priver tous les citoyens de liberté, alors que c'est une surréaction par rapport au danger qu'ils posent. Et c'est dans ce sens que les privations de liberté sont considérées comme non nécessaires pour, par rapport à leur justification. C'est-à-dire que souvent, on prend le terrorisme comme justification pour dire « Ah ben voilà, on a besoin de surveiller telle et telle et telle personne, de surveiller tout le monde, de faire telle et telle chose, parce que on risque des attaques terroristes qui seraient de telle et telle nature et qui feraient tel et tel dégât. » Eh bien, quand on met les deux dans la balance, souvent, il y a des excès dans les deux sens. D'une part, on surveille trop et ce n'est pas forcément efficace. C'est vraiment un point important. C'est-à-dire que si on avait un moyen de... c'est-à-dire que pour mener les enquêtes antiterroristes, on n'a pas forcément besoin de ces moyens qui sont mis en place. On pense aux révélations de Snowden, qui a montré que le gouvernement américain et d'autres faisaient des surveillances de masse dont les dérives étaient très dangereuses, avec justification de bah, « c'est pour contrer le terrorisme ». Mais dans la pratique, non seulement c'est pas uniquement pour... Dans théorie, pour contrer le terrorisme, mais en plus, ça ne sert pas effectivement à contrer le terrorisme dans la pratique, parce qu'il y a tellement d'informations que le travail d'intelligence et de surveillance ciblée est plus important pour le terrorisme. Donc, tout ça, ça nous a entraîné à dire « Ouh là là, privation de liberté, surtout pas », et dans ce contexte, c'était justifié. Mais c'était justifié pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Mais j'ai l'impression que ça nous a entraînés à avoir une sorte de réflexe pavlovien où, quand on entend privation de liberté, on dit non, 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 certainement pas. C'est une sorte de dogme dans le sens où on applique nos réflexions d'un autre contexte à ce contexte qui nous occupe aujourd'hui, qui est différent. Et ça, ça peut mener à des problèmes graves. Ça peut mener à des mésestimations de ce qui est nécessaire et ça peut mener à des conclusions qui ne sont pas adaptées à une situation donnée parce qu'on on applique les conclusions d'une autre situation. Et pour en revenir à la question des privations de liberté, on en a, et je disais, on en a partout. On n'a pas le droit, par exemple, de marcher sur la propriété de quelqu'un d'autre. On n'a pas le droit de jeter nos poubelles ailleurs que dans les poubelles. C'est interdit, c'est une privation de liberté. On n'est pas libre de faire cette chose-là. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est justifié. Mais c'est ça le truc. C'est que on a intégré le fait que pour le bien de la communauté, bah, ces libertés sont un peu restreintes. Alors celles-là, elles sont triviales, mais on en a d'autres. On peut avoir par exemple le fait que, c'est l'exemple qu'on prend souvent quand on parle de liberté aux États-Unis, on n'a pas le droit de crier au feu dans un théâtre, dans un cinéma plein, parce que ça peut provoquer une cohue. Et donc ça, c'est une réduction de la liberté d'expression. On n'a pas le droit de dire au feu. Oui, là encore, c'est justifié. Mais c'est ça le truc, c'est que c'est justifié quand c'est pour le bien de la communauté. Alors ça, c'est un exemple qu'on prend souvent aux États-Unis, mais on en a un qui fait bondir les Américains, qui est beaucoup plus présent en France. On n'a pas le droit de dire certaines choses sur la Deuxième Guerre mondiale et en général, l'incitation à la haine. On n'a pas le droit de dire que les nazis, ils avaient raison, par exemple. On n'a pas le droit de dire que les Noirs sont moins intelligents que les Blancs. On n'a pas le droit de... l'incitation à la haine, c'est interdit. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. La liberté d'expression est restreinte. Et ça se justifie, évidemment, c'est des évidences, parce que c'est bénéfique pour la communauté. C'est la même chose encore, si on veut prendre des exemples plus extrêmes, dans des situations de guerre ou de crise, on peut avoir des rationnements. On n'a pas le droit d'acheter plus que ce à quoi on a droit. On peut avoir des couvre-feux, on n'a pas le droit de sortir. C'est des restrictions, des privations de liberté. Alors bien sûr, c'est encadré dans les sociétés démocratique. On a une balance des pouvoirs qui encadre ce genre de choses. Ça ne peut pas être fait sans qu'une loi soit votée et surveillée par le Parlement. Ce n'est pas le gouvernement qui décide tout seul. Mais ces privations de liberté existent quand elles sont justifiées par le contexte, la situation et le danger qui est en face de nous. Et donc, j'en reviens à la question de la quarantaine. Quand on parle de cette quarantaine virtuelle, c'est dans un contexte particulier. Et il faut différencier, et c'est là que je pense les gens confondent deux choses, il faut différencier la question de la quarantaine et la question de la virtualité de cette quarantaine. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de privation de liberté quand on parle, en fait, de la question de la quarantaine. Et si la quarantaine est justifiée médicalement, alors son application est presque un autre débat. Et il y a des gens qui disent « Ah, mais on n'a pas le droit d'empêcher les gens de sortir de chez eux. » Bah si. S'ils sont malades et que médicalement, on est dans une phase de la pandémie qui nécessite que les gens qui sont malades restent chez eux, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'était l'une des conclusions d'une discussion que j'ai eue avec quelqu'un dans les commentaires. Au début, on ne se comprenait pas du tout et j'ai compris un petit peu ce que la personne disait. Bon, on n'est quand même pas tombé d'accord au final, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont malades, effectivement, qui se baladent dans les rues parce qu'on est dans une phase d'aplatissement de la courbe, dans la phase 3 de la pandémie. D'aplatissement de la courbe où on sait que le virus se diffuse partout et il faut limiter sa diffusion pour ne pas surcharger les services médicaux. En l'occurrence, Taïwan, d'après ce que je comprends, ils sont dans une phase différente où les gens qui sont malades et qui sont identifiés et testés comme malades, il faut les isoler. Et donc la quarantaine est justifiée. On est dans un contexte où la quarantaine doit être mise en application. Et à partir du moment où on accepte ce fait médical avéré, c'est une situation particulière, une situation d'urgence, où le cas, la vérité médicale est acceptée. Ou alors on ne l'accepte pas et à ce moment le problème est différent. Mais si les médecins nous disent « cette personne doit être isolée », eh ben il faut l'isoler. Ou alors, le débat est différent de « est-ce qu'il faut l'isoler avec un téléphone ou autre chose ?» Mais si on accepte qu'elle doit être isolée, elle doit être isolée. Et donc, la question se pose ensuite, dans un deuxième temps, comment est-ce qu'elle va être isolée ? Est-ce que cette personne va être isolée dans une chambre d'hôpital, avec des gens qui s'assurent qu'elle ne sort pas, cette personne, ou alors simplement avec des gens qui sont aussi malades, donc c'est moins grave ? C'est une quarantaine, c'est pas marrant, mais ça peut être une mesure nécessaire. Imaginons qu'on n'ait pas assez de chambres d'hôpitaux parce qu'il y a trop de gens qui sont malades ou qu'on en a besoin pour des gens qui sont plus malades que les gens qui sont asymptomatiques, par exemple. Peut-être qu'il y a des gens qui sont testés, positifs, asymptomatiques. Ils peuvent parfaitement rester chez eux. On n'a pas besoin de faire en sorte qu'ils prennent un lit d'hôpital, mais on veut s'assurer qu'ils restent chez eux. Alors oui, ça serait idéal si on pouvait juste leur dire « vous restez chez vous, s'il vous plaît ». Et s'assurer qu'ils le fassent. Mais on a bien vu, même si ça va mieux aujourd'hui, on a bien vu que quand on essaye d'implémenter les mesures de confinement, bah, y en a toujours qui ne vont pas les respecter. Et aujourd'hui, s'il y en a un ou deux sur 100 ou sur 1000 qui ne les respectent pas, bah, ce n'est pas trop grave parce qu'on est dans cette phase. Si, bien sûr que c'est grave. Mais la maladie est en train de se répandre. Donc on est dans cette phase où on est dans la montée de la courbe. Mais il y a quand même des gens qui sont en train de ne pas respecter les instructions de confinement. Aujourd'hui, ce n'est pas dramatique. Si on est dans une phase descendante de containment, de limitation, où on contient la maladie, eh ben, une personne qui est malade, si elle sort de chez elle, ça a fait rire et énerver certains quand je disais c'est une personne qui a des petites seringues qui va infecter les gens. Mais c'est ça! Une personne qui sort de... C'est comme ça qu'elle a commencé la pandémie. Maintenant, elle infecte des centaines et des millions de personnes dans le monde et il y a des milliers et des centaines de milliers de malades et des milliers et des dizaines de milliers de morts. Et ça a commencé avec une personne qui l'a contractée. Donc, une personne, il suffit qu'une personne ou deux personnes sur les 1000 personnes en quarantaine sortent. Il suffit qu'il y ait une personne qui ne soit pas raisonnable et qui sorte. Et ça peut relancer la pandémie. Alors, un peu moins, parce qu'il y aura plus de gens immunisés qui l'auront eu et qui auront guéri. Mais il n'empêche, on estime... Enfin, là, je parle de chiffres dont je ne connais pas les données précises, mais on estime à 40 à 60% de la population mondiale qui va avoir la maladie. Il en reste quand même beaucoup qui ne l'auront pas eu. Et le fait qu'une personne qui est censée être en quarantaine sorte, c'est un vrai problème, un vrai danger. Et on sait que si on demande gentiment, bah, les gens ne respectent pas cette demande. Donc, si on ne peut pas les mettre dans les hôpitaux, parce qu'on a besoin de place pour autre chose, et puis ils vont bien, ils sont asymptomatiques, et qu'on leur demande de rester chez eux, mais qu'on ne peut pas leur faire confiance à tous, il suffit qu'il y en ait un qui ne respecte pas les instructions pour que ça merde, et bah, il faut s'assurer que tous vont rester chez eux. Et comment est-ce qu'on le fait ? Alors, est-ce qu'on met un bracelet électronique, genre type pour les gens qui sont prisonniers? Oui, d'ailleurs, tiens, prison, ça aussi, c'est une privation de liberté. On empêche les gens de bouger. C'est vraiment, c'est textbook. C'est textuellement une privation de liberté. Mais bon, bref. Si on leur met un détecteur au mollet, à la cheville, c'est une possibilité. Peut-être qu'on n'en a pas assez. C'est pas des trucs dont on a des centaines disponibles comme ça. On a une solution qui est simple, qui est facile à mettre en place, qui est celle de la localisation par téléphone mobile. Eh bien, ça serait, à mon sens, peut-être qu'il ne faut pas l'appliquer, mais ça serait une erreur de ne pas la considérer comme une possibilité. Peut-être que la conclusion sera non, finalement, on a assez de détecteurs aux chevilles, peut-être qu'on ne va pas mettre forcément une personne devant la porte de tout le monde. Et puis la privation de liberté serait encore pire, parce que ces gens, on a quelqu'un devant. Mais c'est l'une des solutions possibles. Et le fait de dire non, 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 privation de liberté, donc non, on ne peut pas faire ça, c'est une grosse erreur à mon sens. Parce qu'on applique la réflexion d'une autre situation à celle-ci. Et on revient à cette situation où on doit peser le pour et le contre, la question de l'urgence et de la dangerosité, et la question de donc, cette solution qui, effectivement, amène des privations de liberté. Eh bien, à mon avis, les deux sont dans le sens de, oui, cette privation de liberté qui est décidée médicalement parce qu'il faut une quarantaine, eh bien, peut-être qu'on peut l'appliquer avec une solution simple qui est celle du téléphone mobile. Et oui, évidemment, il y a un danger que, entre guillemets, le gouvernement y prenne goût, mais si on fait, si c'est vraiment une solution qui est adaptée, qui est facile à mettre en place, qui est plus efficace que le reste, avec un danger qui est aussi grand dans cette phase en déclin de la pandémie, dans laquelle, si je comprends bien encore une fois, Taïwan est, eh ben il serait dangereux et irresponsable de ne pas la considérer. Et pour la préoccupation qui est parfaitement réelle et compréhensible, qui est par rapport à le gouvernement qui y prend goût, eh ben, projetons-nous dans cette situation. Est-ce qu'une fois la crise passée, le gouvernement se met à utiliser ses méthodes pour des situations qui n'y sont pas appropriées? Bah oui, là, il faudra dire non, désolé, dans ce cas-là, ce n'est pas approprié, et lutter contre, de la même manière qu'on lutte contre la surveillance de masse dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'est une chose qui doit se traiter dans son contexte et en son temps. Et là où le combat se fera, entre guillemets, si le gouvernement essaye d'appliquer ce type de méthode à des situations qui n'y sont pas adaptées, ça sera sur la légitimité de cet enfermement. C'est même pas forcément par rapport à la question de la surveillance par téléphone mobile, parce qu'on parle en théorie, mais concrètement, si on regarde concrètement de quoi il s'agirait, il faut que le gouvernement décide qu'une personne doit être enfermée chez elle. C'est déjà ça le problème. Si elle ne doit pas être enfermée chez elle, alors c'est là qu'est le problème. Mais si elle est enfermée chez elle, parce que le gouvernement a décidé de l'enfermer chez elle, qu'elle soit enfermée avec un téléphone mobile comme laisse virtuelle ou avec un détecteur à la cheville, bah le problème est un petit peu le même. S'il n'y a pas de raison qu'elle soit enfermée chez elle, c'est ça qui est le problème. Ce n'est pas le fait qu'on utilise un téléphone mobile ou un autre type de moyen d'enfermement ou des personnes armées devant sa porte. S'il y a des personnes armées devant la porte de la personne et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir cette mesure, bah c'est ça le problème. Et j'ajoute une autre réflexion qui me paraît importante aussi.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Qui est la réflexion par rapport aux pays totalitaires? Je pense que les gens qui écoutent le rendez-vous tech depuis longtemps savent, ou même pas depuis longtemps, depuis un an, savent que j'ai été plus d'une fois extrêmement critique des mesures que prenait la Chine par rapport à l'application tech de la surveillance de ces populations. C'est un gouvernement qui est totalitaire, qui utilise le système de crédit social contre lequel j'ai été très véhément à de nombreuses reprises. Il y a la question de la reconnaissance faciale qui est utilisée de manière plus qu'inquiétante dans le pays. Donc tout ça, j'espère que je n'ai pas besoin de vous rappeler à quel point je suis méfiant de l'agissement des pays totalitaires, et c'est un euphémisme. Mais, et c'est un mais important, ça ne veut pas dire que tout ce qui vient de ces pays, et c'est une réflexion qui est facile, vers laquelle il est facile d'aller, ça ne veut pas dire que tout ce qui vient de ces pays est forcément à rejeter. Et je m'explique. Quand on a constaté que le gouvernement chinois fermait Wuhan, tout le monde, dans toute la presse, et je m'inclus dans ce... Je ne me considère pas vraiment comme un journaliste, je crois, je n'ai pas de carte de presse, mais je m'inclus dans cette réflexion parce que j'ai eu la même réaction. Et je crois qu'elle était sans doute naturelle, mais elle n'en est pas moins problématique. Tout le monde a regardé cet événement et s'est dit « Ah bah c'est la Chine qui est totalitaire, qui est en train de faire ça, eux ils peuvent. » Mais ouais, bah c'est la Chine et on n'a pas cherché à aller plus loin. À mon sens, le travail des journalistes aurait été, et le travail des journalistes est incroyablement important, et ils font souvent un travail hyper important, mais on a un examen de conscience de la profession à faire, à mon sens, dans ce domaine. Personne n'a été cherché à comprendre pourquoi cette fermeture de la ville était si importante. Et j'en viens à un point que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est celui de la distanciation sociale. Pourquoi est-ce qu'en janvier, quand ils ont fermé Wuhan, on n'a pas entendu parler de distanciation sociale? Peut-être qu'il y a une ou deux publications qui en a parlé, mais vraiment, je crois, d'une manière générale, il a fallu attendre début mars et les articles un petit peu alarmistes, comme celui que j'ai relayé de Thomas Pueyo, il y en a eu d'autres, mais qui ont pointé du doigt l'importance de la distanciation sociale quelques jours avant que les gouvernements ne l'implémentent, pour qu'on sache vraiment de quoi il s'agit. Alors que les indices étaient, même pas les indices, l'implémentation était déjà là devant nos yeux, on l'a tous regardé, on a vu Wuhan se fermer, et personne n'a été expliqué, en réalité, la raison pour laquelle c'est important de fermer la ville et d'implémenter ces mesures drastiques, c'est que la pandémie est ralentie par la distanciation sociale et ce concept de distanciation sociale. Et personne n'en a parlé. Aucun journaliste n'a été faire le travail d'investigation. Et encore une fois, je ne veux pas accuser les journalistes dans leur ensemble et dire que partir dans cette tendance qui est populaire en ce moment, de dire « Oh, les journalistes, c'est tous des cons, il ne faut pas leur faire confiance, machin. » Non. Ce qui est important à comprendre, c'est que là, il y a eu une erreur, un problème dans le travail journalistique que nous devrions tous avoir cherché. Aller chercher en Chine pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça au-delà de « Ah oh bah c'est les Chinois, ils sont totalitaires et voilà ». Et c'est vraiment une faute que d'ailleurs personne n'est en train de relever et qui me paraît moi vraiment importante. On aurait pu dès janvier comprendre « Alors, les Chinois, ils ont fermé Wuhan. Oui, ils le font de manière drastique parce que c'est un gouvernement totalitaire et qu'ils peuvent parce que personne ne pipe mot là-bas s'ils ne sont pas contents. Mais la raison est importante. La raison est justifiée. Distanciation sociale pour ralentir la diffusion de la maladie. Et donc, j'en reviens à mon point principal. Évidemment que les pays totalitaires sont à critiquer et à montrer en exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Mais partir du dogme que ça vient de la Chine, donc c'est forcément mauvais, c'est dangereux. Et ça nous a amené à ne pas comprendre l'importance de la distanciation sociale et de peut-être perdre. Franchement, je ne pense pas qu'en France ou dans les autres pays, on aurait pu l'implémenter à ce moment-là. On n'aurait même pas pu l'implémenter en février. On n'était pas dans la phase 3, ce n'était pas nécessaire. Et puis, la population n'aurait pas compris. On a vu comment ça s'est passé quand c'était nécessaire. Si ça avait été fait trop tôt, clairement, on n'aurait pas compris. Ni en France, ni ailleurs, d'ailleurs. Je sais que beaucoup de gens parlent des Français et qui disent... « Oh là là, les Français, on ne fait pas ce qu'on nous dit, c'est vraiment un peuple de rebelles, machin. » Non, 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 ça s'est passé de la même manière partout. C'est quelque chose d'humain, je pense. Mais on aurait peut-être pu l'implémenter quelques jours plus tôt, une semaine plus tôt, si les populations avaient été familiarisées avec le concept. Ça aurait été important. Peut-être qu'une semaine plus tôt, c'était même déjà trop tôt, je ne sais pas, mais... Même ça, ça aurait été... Encore une fois, un mois de plus tôt, non, c'était pas réaliste. Mais on parle de quelques jours, là. Et peut-être que ça aurait mieux marché. Et peut-être que quand on l'aurait implémenté, ça aurait été implémenté plus rapidement. Et dans tous les cas, d'un point de vue théorique, il aurait été important et souhaitable d'aller chercher pourquoi la Chine avait fait ça médicalement, scientifiquement, comprendre la raison. Et on l'a pas fait parce que c'est la Chine. Et je dis encore « on », je m'inclus là-dedans. C'est la Chine, voilà. C'est donc forcément un truc totalitaire qui nous concerne pas. Alors, c'est humain, c'est normal, on n'était pas encore concerné par le virus. La prochaine fois, on saura. Comme je le dis à chaque fois, eux, ils savaient, et les pays asiatiques l'ont mieux géré parce qu'ils avaient eu l'expérience du SARS. Au moment du SARS, croyez-moi, ils étaient exactement dans la situation dans laquelle on est, nous, aujourd'hui. Donc, ils ont eu l'expérience. La prochaine fois, parce qu'une prochaine fois va arriver, non seulement cette fois-ci, le confinement va durer, on va être à plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais en plus, la prochaine fois, dans 2 ans, 10 ans, quand ça va arriver, eh ben, on saura... Et on aura vécu cette crise et on mettra les choses en place beaucoup plus efficacement, beaucoup plus rapidement. Mais tout ça pour dire que la question des privations de liberté, s'il y a une chose que je pense qu'il est important de retenir dans toute cette discussion, c'est le fait que appliquer les conclusions d'un contexte différent n'est pas souhaitable et c'est dangereux. Et dans le contexte des données numériques, on a été entraîné, on a un réflexe pavlovien qui est de se dire données privées, privation de liberté, non, 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 quoi qu'il arrive. Et ça, c'est dangereux. Donc, réfléchissons de manière sereine, sérieuse, prenons tous les paramètres en compte. Et si à la fin de cette réflexion, la réponse est non, il ne faut pas l'utiliser, eh bien, OK, il faudra dire non. Et si la réponse est oui, il faudra accepter. Il faudra dire que c'est oui, parce que l'urgence le demande. Mais la chose à ne pas faire, c'est ne même pas regarder, ne même pas considérer en profondeur le contexte dans lequel on est avant de livrer nos conclusions. Et vraiment, il faut faire un travail, il faut se forcer intellectuellement à dépasser son a priori, parce qu'il est ancré en nous. Et là encore, je m'inclus dans cette catégorie. Moi, c'est un exercice que je fais régulièrement depuis peut-être 10 ans pour toutes mes émissions. C'est peut-être un petit peu dans ma personnalité aussi. Et évidemment, je suis comme tout le monde. Généralement, j'y arrive pas. Mais souvent, je me force à me dire « Oula, attends Patrick, là, ton réflexe, c'est de dire tac. Est-ce que c'est vraiment un réflexe justifié ? Est-ce qu'il y a vraiment une raison de se dire peut-être que ça, c'est différent des cas que je connais habituellement ? Et je pense que c'est une chose qu'on doit tous faire pour ça. C'est une bonne hygiène intellectuelle, je crois, en général et en particulier pour les situations exceptionnelles. Bref, tout ça, c'est mes réflexions à moi. Si ça se trouve, elles ont des lacunes. Si ça se trouve, elles ne sont pas justifiées pour différentes raisons. C'est tout à fait possible. Je ne veux pas vous dire que je suis une sorte de philosophe qui détient une vérité inaliénable. Mais c'est une direction de réflexion qui me paraît cohérente et dont je pense qu'elle est intéressante à explorer. Si ça vous amène quelque chose, je suis bien content que vous ayez écouté jusque-là. Si ça vous énerve, n'hésitez pas à venir me dire pourquoi dans les notes de l'émission. Et puis, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir écouté. On se donne rendez-vous pour l'épisode sur le dossier médical partagé dans quelques jours à peine.
The Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.